Livre 2, La faute de l'abbé Mouret, chapitre 8. Le lendemain, dès l'aube, ce fut Serge qui appela Albine. Elle dormait dans une chambre de l'étage supérieur où il n'eut pas l'idée de monter. Il se pencha à la fenêtre, la vie qui poussait ses persiennes au saut du lit, et tous deux rirent beaucoup de se retrouver ainsi. « Aujourd'hui, tu ne sortiras pas, » dit Albine quand elle fut descendue. « Il faut nous reposer. » « Demain, je veux te mener loin, bien loin, quelque part où nous serons joliment à notre aise. »«
Mais nous allons nous ennuyer, » murmura Serge.
« Oh que non, je vais te raconter des histoires. » Ils passèrent une journée charmante. Les fenêtres étaient grandes ouvertes, le paradou entrait, riait avec eux dans la chambre. Serge prit enfin possession de cette heureuse chambre où il s'imaginait être né. Il voulut tout voir, tout se faire expliquer. Les amours de plâtre, culbutés au bord de l'alcôve, l'égayèrent au point qu'il monta sur une chaise pour attacher la ceinture d'Albine au cou du plus petit d'entre eux, un bout d'homme, le derrière en l'air, la tête en bas qui polissonnait. Albine tapait des mains, criait qu'il ressemblait à un hanneton tenu par un fil. Puis, comme prise de pitié, « Non, non, détache-le, ça l'empêche de voler. » Mais ce furent surtout les amours peints au-dessus des portes qui occupèrent vivement Serge. Il se fâchait de ne pouvoir comprendre à quel jeu il jouait, tant les peintures étaient pâlies. Aidé d'Albine, il roula une table sur laquelle ils grimpèrent tous les deux. Albine donnait des explications. « Regarde, ceci jette des fleurs. Sous les fleurs, on ne voit plus que trois gens venus. Je crois me souvenir qu'en arrivant ici, j'ai pu distinguer encore une dame couchée, mais depuis le temps, elle s'en est allée. » Ils firent le tour des panneaux sans que rien d'impur leur vînt de ces jolies indécences de boudoir. Les peintures, qui s'émiettaient comme un visage fardé du XVIIIe siècle, étaient assez mortes pour ne pas laisser passer les genoux et les coudes des corps pâmés dans une luxure aimable. Les détails trop crus, auxquels paraissait s'être complu l'ancien amour dans l'alcôve, gardaient la lointaine odeur, avait disparu, mangé par le grand air, si bien que la chambre ainsi que le parc étaient naturellement redevenus vierges sous la gloire tranquille du soleil.
« Bah, ce sont des gamins qui s'amusent, » dit Serge en redescendant de la table. « Est-ce que tu sais jouer à la main chaude, toi ?»
Albine savait jouer à tous les jeux. Seulement il fallait être au moins trois pour jouer à la main chaude. Cela les fit rire. Mais Serge s'écria qu'on était trop bien deux. Et ils jurèrent de n'être toujours que deux.
On est tout à fait chez soi. On n'entend rien, reprit le jeune homme qui s'allongea sur le canapé.
Et les meubles ont une odeur de vieux qui sent bon. C'est doux comme dans un nid. Voilà une chambre où il y a du bonheur. La jeune fille hochait gravement la tête. Si j'avais été peureuse, murmurait-elle, j'aurais eu bien peur dans les premiers temps. C'est justement cette histoire-là que je veux te raconter. Je l'ai entendu dans le pays. En un peut-être. Enfin, ça nous amusera. » Et elle s'assit à côté de Serge.
Il y a des années et des années, le paradou appartenait à un riche seigneur qui vint s'y enfermer avec une dame très belle. Les portes du château étaient si bien fermées, les murailles du jardin avaient une telle hauteur que jamais personne n'apercevait le moindre bout de jupe de la dame.
« Je sais, » interrompit Serge. La dame n'a jamais reparu. Comme Albine le regardait, toute surprise, fâchée de voir son histoire connue, il continua à demi-voix, étonné lui-même.
« Tu me l'as déjà raconté, ton histoire. »
Elle protesta. Puis elle parut se raviser. Elle se laissa convaincre, ce qui ne l'empêcha pas de terminer son récit en ces termes.
Quand le seigneur s'en alla, il avait les cheveux blancs. Il fit barricader toutes les ouvertures pour qu'on n'en l'a pas dérangé la dame. La dame était morte dans cette chambre.
« Dans cette chambre ?» s'écria Serge. « Tu ne m'avais pas dit cela. Es-tu sûr qu'elle soit morte dans cette chambre ?»
Albine se fâcha.
Elle répétait ce que tout le monde savait. Le seigneur avait fait bâtir le pavillon pour y loger cet inconnu qui ressemblait à une princesse. Les gens du château, plus tard, assuré qu'il y passait les jours et les nuits. Souvent aussi, il l'apercevait dans une allée,
menant les petits pieds de l'inconnu au fond des taillis les plus noirs. Mais pour rien au monde, il ne se serait hasardé à guetter le couple qui battait le parc pendant des semaines entières.
« Et c'est là qu'elle est morte, » répéta Serge, l'esprit frappé.
« Tu as pris sa chambre, tu te sers de ses meubles, tu couches dans son lit. »
Albine souriait. « Tu sais bien que je ne suis pas peureuse, » dit-elle.
« Puis toutes ces choses, c'est si vieux, la chambre te semblait pleine de bonheur. »
Ils se turent. Ils regardèrent un instant l'alcôve, le haut plafond, les coins d'ombre grise. Il y avait comme un attendrissement amoureux dans les couleurs fanées des meubles. C'était un soupir discret du passé, si résigné qu'il ressemblait encore à un remerciement tiède de femme adorée.
« Oui, » murmura Serge, « on ne peut pas avoir peur, c'est trop tranquille. »
Et Albine reprit en se rapprochant de lui.
« Ce que peu de personnes savent, c'est qu'il avait découvert dans le jardin un endroit de félicité parfaite où ils finissaient par vivre toutes leurs heures. Moi, je tiens cela d'une source certaine. Un endroit d'ombre fraîche caché au fond des broussailles impénétrables, si merveilleusement beau qu'on y oublie le monde entier. La dame a dû y être enterrée.
Est-ce dans le parterre ? Demanda Serge curieusement.
« Je ne sais pas, je ne sais pas, » dit la jeune fille avec un geste découragé. « J'ai cherché partout. Je n'ai encore pu trouver nulle part cette clairière heureuse. Elle n'est ni dans les roses, ni dans les lys, ni sur le tapis des violettes. »«
Peut-être est-ce ce coin de fleurs tristes où tu m'as encore montré un enfant debout le bras cassé ?»«
Non, non. » »«
Peut-être est-ce au fond de la grotte, près de cette eau claire où s'est noyée cette grande femme de marbre qui n'a plus de visage ?»«
Non, non. »
Albine resta un instant songeuse. Puis elle continua comme se parlant à elle-même.
Dès le premier jour, je me suis mise en quête. J'y ai passé des journées dans le paradou. Si j'ai fouillé les moindres coins de verdure, c'était uniquement pour m'asseoir une heure au milieu de la carrière. Que de matinées perdues vainement à me glisser sous les ronces, à visiter les coins les plus reculés du parc. Oh, je l'aurais vite reconnue. Cette retraite enchantée avec son arbre immense qui doit la couvrir d'un toit de feuilles, avec son herbe fine, comme une peluche de soie, avec ce mur de buissons verts que les oiseaux eux-mêmes ne peuvent percer.
Elle jeta l'un de ses bras au cou de Serge et levant la voix le suppliant.
« Dis, nous sommes deux maintenant, nous chercherons, nous trouverons. Toi qui es fort, tu écarteras les grosses branches devant moi pour que j'aille jusqu'au fond des fourrés. Tu me porteras lorsque je serai lasse. Tu m'aideras à sauter les ruisseaux, tu monteras aux arbres si nous venons à perdre notre route. Et quelle joie lorsque nous pourrons nous asseoir côte à côte sous le toit de feuilles au centre de la clairière. On m'a raconté qu'on vivait là dans une minute toute une vie. Dis, mon bon Serge, dès demain nous partirons, nous battrons le parc broussaille à broussaille jusqu'à ce que nous ayons contenté notre désir. »
Serge haussa les épaules en souriant.
« À quoi bon, dit-il, n'est-on pas bien dans le parterre ?
Il faudra rester avec les fleurs, vois-tu, sans chercher si loin un bonheur plus grand. »«
C'est là que la morte est enterrée, murmura Albine, retombant dans sa rêverie. C'est la joie de s'être assise là qui l'a tuée. L'arbre a une ombre dont le charme fait mourir. Moi, je mourrais volontiers ainsi. » Nous nous coucherions aux bras l'un de l'autre, nous serions morts. Personne ne nous trouverait plus.
Non, tais-toi, tu me désoles, interrompit Serge inquiet. Je veux que nous vivions au soleil, loin de cette ombre mortelle. Tes paroles me troublent comme si elles nous poussaient à quelque malheur irréparable. Ça doit être défendu de s'asseoir sous un arbre dont l'ombrage donne un tel frisson.
Oui, c'est défendu, déclara gravement Albine. Tous les gens m'ont dit que c'était défendu.
Un silence se fit. Serge se leva du canapé où il était resté allongé. Il riait. Il prétendait que les histoires ne l'amusaient pas. Le soleil baissait lorsqu'Albine consentit enfin à descendre un instant au jardin. Elle le mena à gauche, le long du mur de clôture, jusqu'à un champ de décombres tout hérissé de ronces. C'était l'ancien emplacement du château, encore noir de l'incendie qui avait abattu les murs. Sous les ronces,
des pierres cuites se fendaient, des éboulements de charpente pourrissaient. On eût dit un coin de roche stérile, raviné, bossué, vêtu d'herbes rudes, de lianes rampantes qui se coulaient dans chaque fente comme des couleuvres. Et ils s'égayèrent à traverser en tous sens cette fondrière, descendant au fond des trous, flairant les débris, cherchant s'ils devineraient rien de ce passé en cendres. Ils n'avouaient pas leur curiosité. Ils se poursuivaient au milieu des planchers crevés et des cloisons renversées. Mais à la vérité, ils ne songeaient qu'aux légendes de ces ruines, à cette dame plus belle que le jour qui avait traîné sa jupe de soie sur ses marches, où les lézards seuls aujourd'hui se promenaient paresseusement. Serge finit par se planter sur le plus haut tas de décombres, regardant le parc qui déroulait ses immenses nappes vertes, cherchant entre les arbres la tache grise du pavillon. Albine se taisait, debout à son côté, redevenue sérieuse. « Le pavillon est là, à droite, » dit-elle, sans qu'il l'interrogeât. « C'est tout ce qui reste des bâtiments. Tu le vois bien au bout de ce couvert de tilleuls ?» Ils gardèrent de nouveau le silence, et comme continuant à voix haute les réflexions qu'ils faisaient mentalement tous les deux, elle reprit. « Quand il allait la voir, il devait descendre par cette allée. » Puis il tournait les gros marronniers et il entrait sous les tilleuls. Il lui fallait à peine un quart d'heure. Serge n'ouvrit pas les lèvres. Lorsqu'ils revinrent, ils descendirent l'allée. Ils tournèrent les gros marronniers, ils entrèrent sous les tilleuls. C'était un chemin d'amour. Sur l'herbe, ils semblaient chercher des pas, un nœud de ruban tombé, une bouffée de parfums anciens, quelque indice qui leur montra clairement qu'ils étaient bien dans le sentier menant à la joie d'être ensemble. La nuit venait. Le parc avait une grande voix mourante qui les appelait du fond des verdures. « Attends, » dit Albine lorsqu'ils furent revenus devant le pavillon. « Toi, tu ne monteras que dans 3 minutes. » Elle s'échappa gaiement, s'enfermant dans la chambre au plafond bleu, puis, après avoir laissé Serge frapper 2 fois à la porte, elle l'entrebâilla discrètement et le reçut avec une révérence à l'ancienne mode. « Bonjour, mon cher seigneur, » dit-elle en l'embrassant. Cela les amusa extrêmement. Ils jouèrent aux amoureux avec une puérilité de gamin. Ils bégayaient la passion qui avait jadis agonisé là. Ils l'apprenaient comme une leçon qu'ils annonnaient d'une adorable manière, ne sachant point se baiser aux lèvres, cherchant sur les joues, finissant par danser l'un devant l'autre en riant aux éclats, par ignorance de se témoigner autrement le plaisir qu'ils goûtaient à s'aimer.